Rarement le monde de la télévision a été aussi agité que cette saison. Il y a eu l'annonce de la fusion entre les deux premiers groupes privés, TF1 et M6, le feuilleton des droits du foot, le fiasco Mediapro, la colère de Canal+, et l'arrivée d'Amazon, et puis les audiences historiques de BFM TV, pourtant battues à quelques reprises par CNews, chaîne d'opinion qui a connu une progression fulgurante cette saison. Bref, de nombreux événements marquants sur lesquels on va revenir pour dresser ce bilan de la saison 2020-2021. Bonjour Charles Decamp.
Bonjour Philippe.
Plaisir de vous retrouver dans ce studio.
Plaisir partagé.
Vous êtes journaliste, bon connaisseur des médias, même très bon connaisseur des médias, et les auditeurs d'Europe peuvent vous entendre parler du sujet chaque week-end dans la matinale de Pierre de Villeneuve. Sacha Nokovitch, bonjour.
Bonjour Philippe.
Vous êtes journaliste pour l'équipe en charge des médias dans ce journal. Peut-être reconnu ce mix, les génériques des JT de TF1 et d'M6, les deux groupes qui ont annoncé leur fusion le mois dernier. C'est l'annonce de la saison. Charles, en quoi est-ce un événement important? Et plus précisément, quel est l'enjeu de cette fusion?
C'est important tout simplement parce que TF1, c'est la première chaîne de France. M6, c'est la troisième ou quatrième. Si on parle en termes de groupes, c'est les deuxième et troisième groupes audiovisuels français. C'est plus de 41% de part d'audience et 55% sur la fameuse cible préférée.
Voilà, la FRDA. Femme responsable des achats de moins de 50 ans.
Et surtout, c'est 70% du marché publicitaire télé français, donc forcément c'est la rencontre de deux groupes assez très très importants. Et donc pourquoi est-ce que ça se fait, puisqu'effectivement il y a quelques mois encore on se serait dit TF1 M6, quelle drôle d'idée, c'est les chaînes rivales et les groupes rivaux depuis des années. En fait, le positionnement, leur affichage en tout cas, c'est de dire on veut peser face aux géants comme Netflix, comme Disney et Amazon. Mais la grande question que tout le monde se pose, c'est très bien effectivement de vouloir rivaliser avec les grands groupes américains, mais ces groupes, ils ne sont pas présents sur le marché publicitaire français. En fait, il n'y a pas de pub sur Disney, sur Amazon, sur Netflix. Donc comment est-ce qu'on peut réconcilier ce positionnement d'un côté et de l'autre côté ce monopole quasi qui va se produire en fait sur le marché publicitaire télé français.
Surprise dans la surprise, dans le projet qui a été annoncé, c'est Bouygues qui va contrôler le nouvel ensemble. C'est lui, Bouygues, le propriétaire de TF1, qui sera l'actionnaire de référence, mais ce n'est pas l'un de ces hommes qui pourrait diriger la nouvelle entité.
Oui, effectivement, surprise, c'est Nicolas Taverneau qui sera à la tête de ce groupe. Nicolas Taverneau, c'est quand même le président du directoire du groupe M6 depuis 21 ans. Avant ça, il avait été 10 ans directeur général d'M6, donc c'est vraiment un pur produit d'M6, et c'est surtout un dirigeant à la longévité exceptionnelle. Faut savoir que c'est un gestionnaire hors pair qu'M6. C'est le premier groupe, par exemple, aussi, qui avait pris le tournant du replay. Donc il a vu des choses, avec son groupe évidemment, que les autres groupes télé n'avaient pas vu. TF1 est arrivé beaucoup plus tard que ça. Donc il y a ce côté gestionnaire vraiment de talent, le fait que M6 est un groupe extrêmement rentable, il a été pendant longtemps beaucoup plus rentable que le groupe TF1. Et du coup, c'est une décision en tout cas de Bouygues de placer à la tête du nouvel ensemble Nicolas Taverneau.
Alors c'est pas tout à fait, dans ce dossier on utilise encore le conditionnel parce que l'accord trouvé entre TF1 et M6 ne fait pas tout, il reste des obstacles.
Oui, il reste des obstacles, justement je vous en parlais, le marché publicitaire, en fait l'autorité de la concurrence va examiner le dossier de très près. Il y a un an et demi qui vont se passer avant que la fusion puisse être effective. Les deux groupes vont sans doute devoir se défaire de certaines de leurs chaînes, puisque vous le savez, la réglementation fait qu'on ne peut avoir que 7 chaînes maximum sur la TNT, ce qui sera évidemment beaucoup plus pour le groupe TF1 et le groupe M6. Donc il y a beaucoup d'inquiétudes, il y a des inquiétudes des autres chaînes. Donc effectivement, ce n'est pas simple, ça semble un peu acquis, et malgré tout, c'est pas fait du tout.
Où est-ce qu'on en est?
Alors pour l'instant, Gilles Pélisson, le patron du groupe TF1, le disait cette semaine dans le Figaro, c'est business as usual, les deux chaînes continuent. Les deux groupes continuent à travailler chacun de leur côté. On ne sait pas exactement ce qui se passe derrière les portes closes, mais pour l'instant, en tout cas, à l'antenne, il n'y a aucun changement.
Sacha Nokovitch, je me tourne vers vous. Les groupes TF1 et M6 diffusent du sport, du football principalement. On le voit en ce moment, ils se partagent les matchs de l'équipe de France pendant l'Euro. Est-ce que cette fusion annoncée peut avoir des conséquences sur le droit de diffusion des matchs des Bleus et puis pour le sport en général?
C'est une très mauvaise nouvelle pour les grandes ligues, les grandes fédérations comme la FIFA ou l'UEFA qui vend ses droits, qui a du mal à vendre ses droits, qui les vend de moins en moins cher. Et là, c'est une concurrence en moins. C'est un grand groupe qui va se former, qui ne se fera plus la guerre sur les droits. Alors, il ne la faisait pas déjà sur l'euro parce que c'était des offres communes. Là, on sait qu'ils payent 25 millions d'euros chacun pour se partager 23 matchs de l'euro en clair. Mm-hmm. Mais à l'avenir, c'est sûr que les droits risquent de diminuer parce qu'ils font une offre commune pour le groupe. Et c'est forcément pas une bonne nouvelle.
On peut avoir la vision inverse, se dire qu'au contraire, ce sera un géant qui pourra lutter, par exemple, contre Amazon. On a vu que les droits de Roland-Garros ont été partagés entre Amazon qui avait les matchs du soir et France Télévisions qui avait les matchs de la journée.
Je pense pas qu'il puisse lutter contre un géant comme Amazon. En revanche, c'est sûr qu'il pourrait se positionner sur davantage de grands événements, mais pas sur un feuilleton comme la Ligue 1 ou la Ligue des Champions qui est hors de leur système économique, de l'écosystème de ces groupes en clair.
On va en venir au fiasco de la saison en matière de droits sportifs, c'est Mediapro. Alors je vais rappeler le contexte. Mediapro, c'est une société sino-espagnole qui devait diffuser, elle avait signé un contrat pour cela, 80% des matchs de Ligue 1 cette saison. Elle avait monté une chaîne ad hoc, Téléfoot. Elle devait verser un peu plus de 800 millions d'euros par an à la Ligue 1, mais en octobre, Mediapro demande un rabais, elle n'a pas l'argent nécessaire, pas de garantie sérieuse non plus. Quelles sont les conséquences? Racontez la suite.
Écoutez, donc on est en octobre, c'est le grand patron Jomer Roures qui annonce ça, dans l'équipe d'ailleurs, qui dit on ne paiera plus, on veut un rabais. La Ligue n'est pas d'accord, si on commence à accepter un rabais, on sait que voilà, c'est sans fin, les autres vont le faire, Canal+, à l'époque, aurait pu le faire, Free aussi, et ça aurait été une crise absolue, sachant qu'il n'y avait déjà plus de personnes dans les stades pour l'économie du foot français. Donc ça a duré quelques mois, on a essayé de négocier sans succès. Pendant ce temps-là, Canal+, a pris langue avec la Ligue pour essayer de récupérer le bébé, entre guillemets, à bon prix. Ça ne s'est pas fait. Et finalement, Mediapro et la chaîne Téléfoot ne sont partis du marché qu'en mois de février, le 7 février, à l'issue du Classico PSG-OM. Et juste après ça, le Canal a récupéré l'intégralité des matchs, mais seulement jusqu'à l'issue de cette saison.
Entre-temps, Mediapro a rendu ses droits. Et puis, il y a des dizaines de journalistes et de techniciens qui sont retrouvés au chômage. Canal+ a fini par reprendre les droits. Et dans le même temps, Canal+ attaque la Ligue en justice devant l'autorité de la concurrence sans succès. En fin de saison, un nouvel appel d'offres est lancé. Canal, partenaire du foot français, pensait être bien placé, mais c'est Amazon qui est retenu finalement, coup de tonnerre. Et c'est ça qui est intéressant, j'en parlais tout à l'heure avec le tennis, l'arrivée d'un nouvel acteur dans le dossier des droits du foot, et pas n'importe lequel. Est-ce que vous pouvez situer Amazon ?
Écoutez, Amazon, ils ont commencé sur le marché anglais, britannique plutôt, par acheter des droits justement sur le tennis, comme en France avec Roland-Garros. Et peu à peu, ils ont acheté 20 matchs de Première Ligue par-ci, quelques matchs de Ligue des Champions pour le marché italien et le marché allemand. Et là, c'est la grande première, je vais dire, sur un droit, un feuilleton d'une saison entière. Et c'est sur la Ligue 1, c'est en France que ça se passe. Et c'est pas un hasard, parce que évidemment, c'est une opportunité formidable pour eux. Ils vont régler seulement 250 millions d'euros pour 80% des matchs, dont les meilleurs. Vous savez, les PSG-OM, les PSG-OM.
Les matchs du dimanche soir.
Voilà, les grands matchs du dimanche soir, pour un prix trois fois moins cher, moins de trois fois moins cher que ce que payait Mediapro, enfin ce qu'avait promis de payer Mediapro la saison dernière. Donc c'est surtout une opportunité pour eux, mais c'est bien évidemment que ce soit la France qui profite d'un géant comme Amazon pour tenter l'expérience.
Canal+ a dit qu'il voulait se retirer de cet accord. Canal+ a qui restait 20% des matchs. Que va-t-il se passer? Amazon va diffuser 100% des matchs, ou est-ce qu'un nouvel entrant va venir sur le marché et récupérer les droits que Canal+ détenait précédemment?
Alors le jour où on a appris qu'Amazon allait récupérer les matchs, évidemment, gros effet d'annonce, Canal+, contre-feu de com' de Canal+, qui annonce se retirer de la Ligue 1. Mais à l'heure où on se parle, je suis désolé de vous l'apprendre, mais le contrat de sous-licence entre Canal+ et Bein Sport, parce que ces 20% de matchs appartiennent à Bein Sport et Canal les paye et Bein paye ensuite la Ligue, n'est pas rompu, ce qui signifie qu'à l'heure où on se parle, Canal+ est censé payer Bein Sport et censé diffuser les matchs dans 3 semaines, 1 mois.
Revenons quelques instants à Canal+, qui a connu une année difficile en interne, au service des sports notamment, service que plusieurs journalistes ont quitté, certains ont été licenciés, on va y revenir. Autre illustration de cette année difficile, c'est le départ du chroniqueur vedette de Canal+, Pierre Ménès. Vous l'annoncez dans l'équipe ce matin, pourquoi quitte-t-il Canal+?
Écoutez, vous savez qu'il y a un documentaire qui a été diffusé sur Canal+, d'ailleurs, en mars dernier, qui s'appelle « Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste » de Marie Portolano et Guillaume Priou. Une séquence avait été tournée avec Pierre Ménès pour revenir sur des faits sexistes avec Marie Portolano. Évidemment, la direction de Canal+, à la vue de ces séquences, a décidé de les couper au montage. Le site Les Jours les a révélées. Ensuite, Cyril Hanouna en a diffusé une partie dans son émission. Et évidemment, à la suite de cela, la direction de Canal+ a lancé une enquête interne. Et ils ont préféré finalement s'accorder financièrement entre Pierre Ménès et la direction de Canal+ pour une sortie avant l'été.
Oui, parce que les séquences n'étaient quand même pas vraiment à son avantage.
Pas du tout, et sa défense non plus.
Voilà.
Autre affaire au sein du service des sports, il y a eu la parodie d'une émission de CNews, L'heure des pros, par Sébastien Stoen. Là aussi, des conséquences, y compris sur les journalistes sportifs de Canal+.
Oui, à la suite de ça, il y a eu un peu plus de 100 personnes, collaborateurs de Canal+, pardon, qui ont signé un communiqué pour défendre leur collègue Sébastien Stoen, réclamant la défense de la liberté d'expression pour les personnes travaillant sur l'antenne. Ça n'a pas plu à la direction Canal+, qui, elle, estimait qu'on dénigrait, que Sébastien Stoen avait dénigré la société en se moquant de CNews, en s'affichant à côté de Julien Cazard, un ami qui lui-même avait dénigré, selon Canal+, la chaîne quelques semaines auparavant sur YouTube. Donc à la suite de ça, certaines personnes ont décidé de s'excuser auprès de la direction. Elles sont toujours en poste. D'autres ont maintenu.
Oui, elles ont été invitées à s'excuser, si je ne dis pas de bêtises, a priori.
Voilà, c'était un peu ça. C'est-à-dire, vous vous excusez, on s'arrange pour un départ. Et aujourd'hui, il y a près d'une trentaine de collaborateurs qui ont décidé de ne pas s'excuser et de partir, ou d'être licenciés. De partir bien à temps de départ avantageux, on va dire, poussé vers la sortie, et d'autres personnes licenciées à l'image de Stéphane Guy qui lui avait soutenu Sébastien Stoen à l'antenne.
Voilà, aujourd'hui, ce qui est mis en avant, c'est le manque de loyauté à Canal+. C'est un peu le mot d'ordre dans le groupe maintenant. Si on n'est pas loyal, eh ben, soit on est viré, soit on s'en va.
Et où en est le service des sports de Canal+ aujourd'hui ?
Écoutez, ça s'est un peu apaisé, un peu calmé. Il y a une grille qui est en train de se dessiner pour la rentrée, avec ses incertitudes évidemment autour de la Ligue 1. Mais depuis quelques semaines, entre la direction et cette rédaction des sports, c'est largement plus apaisé qu'il y a quelques mois.
Le bilan de la saison que nous sommes en train de dresser avec Charles Decamp d'Europe 1 et Sacha Nokovic, journal L'Équipe. On a parlé de l'info, on a parlé du sport, on n'a pas encore parlé de fiction. Ça sera juste après ça. On marque une courte pause. Culture Média continue. Le bilan de la saison télé écoulée, on en parle avec Sacha Nokovic, journaliste, journal L'Équipe, notamment spécialiste des droits du sport en général, mais pas que, et de l'économie de la télévision en général. Et Charles Decamp avec nous, spécialiste média sur Europe 1. On peut l'entendre le week-end dans la matinale de Pierre de Villeneuve. On va parler des audiences de l'année à présent. On aurait pu évidemment évoquer la meilleure audience, toutes catégories confondues. C'était il y a deux jours ou trois jours, funeste lundi, 16 340 000 téléspectateurs devant l'élimination de la France,
on
de l'Euro,
parler de choses positives.
Par la Suisse. Mais justement, on a choisi de revenir sur une autre très très bonne audience, tout aussi impressionnante. C'est une série de TF1 HPI avec Audrey Fleurot et Mehdi Nebbou.
Déclinez votre identité.
Morgan Alvaro, 38 ans, célibataire, trois enfants de deux pères différents et haut potentiel intellectuel. HPI.
Quoi votre truc ? Vous êtes surdoué ?
Quand je vois une énigme, eh ben, je suis obligée de la résoudre, sinon je peux pas dormir. Voilà, j'ai pas le choix.
Mais qu'est-ce que vous foutez à faire le ménage ?
Il semblerait que j'ai un problème avec l'autorité.
Près de 10 millions de téléspectateurs en moyenne, Charles Decamp, ce chiffre n'est même pas impressionnant, il est astronomique.
Ouais, et avec le replay, c'est même 11 millions et demi de téléspectateurs, 45% de part d'audience, 52% sur la cible. Alors là, je vais vous dire un truc, c'est la troisième série la plus regardée de l'histoire de la télévision française, derrière Dolmen en 2005 et Le Comte de Monte Cristo en 98 avec Gérard Depardieu. Alors c'est quand même des séries d'une autre époque, c'est-à-dire il y avait six chaînes, il n'y avait pas de streaming. Donc c'est pas stratosphérique, c'est inespéré, c'est inédit, c'est tout ce que vous voulez, quoi.
Mais alors c'est pas seulement la goutte d'eau qui cache la forêt, j'adore ce genre d'expression. Les fictions françaises ont également rencontré un beau succès cette saison.
Oui, Capitaine Marlowe, évidemment, qui était avant l'arrivée d'HPI, la série numéro 1, la série française numéro 1 en France, et même série toute nationalité confondue. Capitaine Marlowe marchait tellement bien que France 2 l'a rapatrié sur son antenne, puisqu'avant ça était diffusé sur France 3. Ça a continué à cartonner sur France 2. 7 300 000 téléspectateurs à J+7 au mois d'avril pour un des épisodes. C'était un record historique pour la case du vendredi soir de France 2, qui marchait déjà très bien. Et puis vous en parlez régulièrement dans les audiences. Il y a évidemment notamment la série Meurtre A sur France 3 qui cartonne aussi parfois plus en deuxième voire en troisième rediffusion, à croire que les gens oublient un peu ce qu'ils regardent ou que c'est vraiment tellement bien qu'ils ont envie de le revoir. Donc voilà, la fiction française va très très bien.
Et alors contrairement à la télévision, puisque vous en parliez des années 90, 2000, 2010, les séries américaines déçoivent encore dans l'ensemble.
Oui, c'est ça, on se rappelle des Experts qui faisaient plus de 10 millions de téléspectateurs sur TF1. Et ben là, si vous arrivez à trouver une série qui passe les 4 millions de téléspectateurs en audience veille, et ben félicitations, ça ne marche plus. Ce qui marche le mieux, c'est encore sur TF1. On a les séries Medica, The Resident, Good Doctor, etc. qui avant aussi, quand elles ne marchaient pas sur l'ensemble du public, marchaient particulièrement sur la FRDA, la ménagère comme on disait à l'époque. Et ben maintenant, même plus. On a vu récemment Esprit Criminel qui se faisait écraser sur la cible par Top Chef sur M6. Il y avait 11 points d'écart entre les deux. On est en dessous des 20% sur la ménagère, donc c'est vraiment presque une espèce en voie de disparition. Après, ça coûte beaucoup beaucoup moins cher de diffuser une série américaine que de diffuser une série française. Donc c'est un équilibre à trouver, mais c'est sûr que effectivement avant on mettait les experts, même en rediffusion ça marchait très bien. Aujourd'hui c'est vraiment un casse-tête de trouver une série américaine qui va séduire le public français.
J'en ai une, mais c'est une exception dans l'exception. C'est plus qu'une série, c'est un événement. C'était l'épisode spécial de Friends. C'était un one shot où on retrouvait tous les comédiens de la série. Vous l'avez vu, Sacha Nokovic?
Oui, ça m'a fait mal au cœur de les voir comme ça.
Ah bon?
Je préfère regarder l'image de mon adolescence, de ma jeunesse.
Parce qu'ils ont vieilli ou parce qu'ils ont fait du botox?
Les deux. Les deux. Mais c'était très intéressant d'écouter les producteurs, les auteurs de la série qui nous racontaient les coulisses. On les avait jamais vraiment vus. On voyait leur nom générique. Mmh. Là, on voyait leur visage et ils nous expliquaient un peu toutes les coulisses. Je trouvais ça passionnant.
Mais après, c'était pas non plus un énorme carton, hein, 19% de part d'audience. Le vrai carton, c'était sur la FRDA, justement, 42%. Et ça, effectivement, c'est complètement inédit maintenant pour les séries américaines.
Alors, on va continuer notre bilan de télé de la saison avec le départ de l'année.
Il est temps pour moi de dire au revoir aux téléspectateurs. J'ai écrit un petit texte, hein, quand même. Je m'y prépare depuis des mois et pourtant, ben, j'ai du mal à garder la tête froide. Alors, comment le pourrais-je après tant d'émotions, de surprises et surtout, après 33 ans avec vous, on a créé des liens très forts. Je voudrais vous dire que j'y ai mis toute ma passion pendant presque la moitié de ma vie, vous le savez. C'était un honneur de pouvoir traverser la petite, la grande histoire du monde grâce à vous, à votre fidélité et pour beaucoup, eh oui, celle de vos grands-parents et de vos parents. Ça a été une extraordinaire aventure d'impulser le travail de tant d'équipes pendant toutes ces années pour vous écouter, faire entendre tous ceux qu'on n'entend pas ailleurs. Ça a été une révolution il y a 33 ans, ça a été ma ligne de conduite depuis 33 ans et j'en suis très fier.
Les adieux de Jean-Pierre Pernaut, on a reconnu sa voix. Son dernier journal de 13h, c'était le 18 décembre dernier. Après 33 ans, il l'a dit de présentation. C'était la première fois que j'entendais une référence aux grands-parents. C'était un événement.
Bah oui, vous venez de le dire, 33 ans à l'antenne. Déjà rien que cette longévité exceptionnelle, bah c'est fou. Et puis surtout, s'il est resté à l'antenne pendant 33 ans, c'est pas pour rien. C'était pas par défaut. C'est parce que ça continuait à cartonner. Les audiences étaient stratosphériques pour un rendez-vous comme ça de la mi-journée. Et aussi parce qu'au-delà de ça, au-delà des chiffres, Jean-Pierre Pernaut, il a inventé un peu ce type de journal, ce journal presque magazine. L'ancrage avec les régions, tout le monde l'a copié après ça. Au début, on se moquait un peu de lui, enfin même pendant de longues années. Et ensuite, c'est devenu le style à imiter par tous les animateurs, tous les journaux de toutes les chaînes.
C'est Marie-Sophie Lacaro qui a remplacé Jean-Pierre Pernaut à partir de janvier. La journaliste présentait avant le 13h de France 2. C'est Julien Bugier qui a pris la place de Marie-Sophie Lacaro sur la 2. Deux changements qui ont relancé la bataille d'audience entre ces deux journaux. Six mois plus tard, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on peut faire un bilan d'audience des 13h?
Bien sûr. Alors en fait, si on regarde la moyenne sur le semestre, sur les six mois de l'année, grosso modo, on est sur les mêmes équilibres que l'année dernière. Ce qui est beaucoup plus intéressant à regarder, c'est la tendance. C'est-à-dire que Marie-Sophie Lacaro, elle a démarré au mois de janvier, au-dessus du mois de janvier 2020 de Jean-Pierre Pernaut. Mais en fait, au fil des mois, elle perd petit à petit en part d'audience. On ne peut pas parler en téléspectateurs ici parce que l'année dernière, il y avait le confinement, donc ça a beaucoup joué. Donc on ne peut regarder que la part d'audience. Et la part d'audience de Marie-Sophie Lacaro, c'était 42,6% sur le mois de janvier et c'est 39,7% sur le mois de juin. C'est donc 3 points de perdu. En revanche, sur France 2, on est globalement stable pour Julien Bugier. Et donc l'écart qui, l'année dernière, était de 20 points entre les deux chaînes est aujourd'hui, en tout cas quand on va jusqu'au mois de juin, est de 18 points. Ça reste énorme, évidemment, c'est presque le double, hein. Mais on a une tendance qui n'est pas du tout inquiétante puisqu'on est encore à 40% de part d'audience pour Marie-Sophie Lacaro. Mais voilà, il y a une petite tendance à la baisse.
C'est l'un des génériques de BFM TV, c'est celui de la matinale, première édition. BFM a été challengé cette saison par CNews, on va y revenir. Mais elle réalise toutefois la meilleure saison de son histoire. 2,9% de part d'audience en septembre 2020, en juin 2021. Ce qui est colossal pour une chaîne d'infos continue. Comment vous l'expliquez ?
Bah en fait BFM est devenu vraiment ça fait des années qu'on le dit hein, mais c'est vraiment le réflexe info et il s'avère que sur la saison on a eu beaucoup d'infos. Il y a eu effectivement les allocutions présidentielles où BFM se classe toujours largement leader parmi les chaînes info. Il y a eu l'assassinat de Samuel Paty, il y a eu l'attaque terroriste à Nice. En fait, elle a surtout fait une excellente fin d'année 2020 en termes d'audience et un très bon début d'année 2021. Après ça c'est toujours un peu plus variable puisqu'elle dépend évidemment beaucoup de l'information. Et ensuite, il y a eu aussi quelques tentatives de tenter de nouvelles choses. Il y a eu l'investissement dans le créneau du documentaire. Il y a eu une série documentaire sur l'affaire Daval, une sur l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Ils ont passé le million de téléspectateurs en prime, c'est énorme. Donc voilà, on a un réflexe info et on a en plus des tentatives qui fonctionnent de se positionner un peu en dehors de ça.
Alors toutefois, BFM TV a été battu par CNews sur quelques journées, c'était en mai notamment. L'audience de la chaîne d'opinion du groupe Canal+ a elle aussi progressé, plus 0,7 points en un an. Là aussi, est-ce que ça s'explique? Sacha Nokovic, vous vouliez en dire un mot?
Oui. Le plus dur en télévision, c'est de trouver sa cible. Et je pense que CNews l'a enfin trouvé. Ce qui se dit en coulisses, c'est qu'il, CNews a compris que le public était conservateur de plus de 50 ans. Ils se sont complètement, ils ont pris complètement ce créneau-là. C'est-à-dire, ils sont allés sur cette cible conservatrice. Et on le voit, par exemple, je prends quelqu'un comme Pascal Praud, qui faisait du foot auparavant sur la chaîne CNews, faisait 70 000. Aujourd'hui, il peut en faire 10 fois plus. Donc voilà, on s'est orienté sur des talks comme ça, qui coûtent pas cher en plus en production, parce que c'est un plateau avec un chef d'édition, un animateur et des invités. Et en plus, ça fonctionne, donc ils sont, c'est tout bénef.
C'est presque, si je peux me permettre, du divertissement. Moi, parfois, j'ai l'impression de regarder une chaîne de divertissement où on parle de l'info. C'est un peu un touche pas à mon poste. C'est une bande qui discute avec des avis, et parfois très, enfin, souvent très extrêmes, de l'actualité. C'est juste que la matière est différente. Mais en fait, c'est ça. C'est pour ça que, et BFM, bon, c'est aussi de la communication, mais BFM communique souvent maintenant en disant on ne fait pas le même métier que CNews. Bah, c'est vrai que quand on regarde l'antenne, on peut se rendre compte que c'est des choses différentes.
BFM TV disait cela. LCI également disait cela. Hier, dans le Figaro, Gilles Pélisson, le patron de TF1, disait « LCI veut être une chaîne de débat et pas d'opinion. Nous développons le débat d'idées avec de la hauteur de vue. Quid de LCI ? Est-ce qu'LCI arrive à grappiller et à gratter de l'audience ?»
Bah, les scores d'LCI sont en hausse. Hein. C'est ça qui est terrible. C'est que c'est une chaîne qui gagne petit à petit, qui fonctionne. Après, moins sur la matinale. C'est pour ça qu'il y a un changement de matinale la saison prochaine. Mais face à le leader absolu sur l'info, vraiment le réflexe BFM, et face à CNews qui fait énormément de bruit, il faut trouver un troisième positionnement, ce qui est difficile vu que toutes les trois parlent d'info. Donc on a cette tentative de se dire bon bah à la rentrée on fera du débat mais pas de l'opinion. Je suis très curieux de savoir quelle est la différence entre les deux, parce qu'on le sait malheureusement à la radio, en fait c'est celui qui crie le plus fort, celui qui a l'opinion la plus clivante qui fait souvent le plus d'audience. Donc des débats apaisés avec des gens très bien choisis, des experts etc. qui font monter, qui élèvent le débat, il faut voir si ça paye dans les audiences, puisque malheureusement on est à la télé et il y a la pub et il faut la vendre.
Merci à tous les deux. Charles Decamp, ravi d'avoir passé la saison avec vous sur Europe 1. Merci à vous, Sacha Nokovic. On vous lit régulièrement dans les pages du journal L'Équipe et sur le site l'équipe.fr. Merci d'être avec nous dans ce direct.